Bonsoir, c'est Ondes Noires, l'émission sur l'actualité du polar, présentée par Jacques
et Corinne. Tiens, on a inversé. Bonsoir à tous. Eh bien, ce soir, on va commencer par un roman qui est, on dit roman jeunesse, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est un roman pour beaucoup, beaucoup de monde. Un très bon roman qui s'intitule La Grande Môme. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous en direct son auteur, Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de nous rejoindre. Donc, quelques mots sur vous avant de parler de La Grande Môme. Qu'est-ce que vous préférez quand on vous présente ? Qu'on parle, dise prof de lettres et écrivain ou écrivain et prof de lettres ?
C'est plutôt écrivain et prof de lettres.
Oui, j'en étais sûre.
Voilà.
Donc, comme vous avez quand même... Donc, vous œuvrez beaucoup dans les lettres. Il y a des auteurs qui vous ont inspiré avant que vous mettiez à écrire ?
Oui, bien sûr, mais c'est, je pense un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on vise très très haut quand on est jeune. Moi, j'aurais rêvé, enfin, j'ai été bouleversé, mais comme beaucoup de monde, je pense, par Le Voyage au bout de la nuit, qui m'a tout de suite donné envie d'écrire, c'est-à-dire que c'est l'envie de faire la même chose, même si ça devient quelque chose de ridicule au départ, parce que pour égaler les géants, c'est un peu difficile. Et puis, après le roman noir, ce qui finalement me semble un prolongement assez logique. Et dans le roman noir, j'ai pas franchement commencé d'ailleurs avec les grands du roman noir, Chandler, Hammett, c'est venu après. J'ai commencé tout bêtement, tout simplement, j'allais dire avec le roman noir français de l'époque quand j'avais 17-18 ans, c'est-à-dire ce qui sortait à l'époque, c'est-à-dire encore Manchette, encore ADG, encore Fajardi, voilà, encore Signac, voilà.
Et donc, vous parliez du roman noir, mais c'est vrai que quand on parle de vous, quand on vous présente, on parle souvent d'un auteur, comme d'un auteur de science-fiction qui fait des incursions dans le noir. Ça vous convient comme...
Je me vivrais plutôt, c'est pas par esprit de contradiction, mais comme un auteur de
mais
noir.
Mais si, je vous connais.
Oui, c'est l'esprit de contradiction, bien sûr. Oui, c'est le travail du négatif. Donc, effectivement, comme un auteur, plutôt un auteur de noir, qui il se trouve que je trouve que raconter des histoires noires aujourd'hui, ça prend souvent des allures d'anticipation. D'ailleurs, je préfère le terme à celui de science-fiction. Mm. C'est-à-dire que moi, c'est pas les extraterrestres, les vaisseaux, les guerres intergalactiques, c'est pas trop mon truc. Par contre, la façon dont les sociétés virent tranquillement et doucement au totalitarisme sans qu'on s'en rende compte, c'est des sujets de romans noirs pour moi, et des gens me disent « Ah oui, mais c'est de l'anticipation », puis 15 jours après, mise à bas, non, tu t'as vu, regarde en fait dans le journal, les drones, ça existe, etc. Voilà.
Et, bah, moi, j'aime pas trop justement toutes ces classifications.
Voilà,
en fait.
Moi non plus d'ailleurs, tout simplement.
Voilà, alors... J'irai, vous voyez si la définition vous convient, en fait je dirais que vous utilisez la littérature de genre pour décrire un monde qui ne vous plaît pas et qui va de mal en pis, c'est un peu mieux comme ça ?
Ah, c'est même parfait, Corinne, c'est
merci,
exactement
va
ça.
Merci, va sur 20, oh, merci.
C'est exactement ça, c'est effectivement, je n'ai rien trouvé de mieux que le genre, au sens large, hein. Pour parler du monde tel qu'il est. Enfin, il me semble absolument d'une naïveté à la fois littéraire et politique de vouloir parler du monde d'aujourd'hui à travers ce qui est très à la mode, par exemple l'autofiction, qui est quelque chose qui me semble pas très pertinent aujourd'hui en tout cas.
Non, effectivement. Alors, ce qui est très pertinent aujourd'hui, c'est un livre qui m'a vraiment enchantée et enthousiasmée, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir en parler avec vous. C'est donc La Grande Môme. C'est chez Syros, à la collection Rat Noir. Et déjà, je voudrais déjà dire quelque chose. C'est une collection qui est traditionnellement faite pour les adolescents, mais je crois avoir atteint l'âge adulte, d'aucuns même disent depuis longtemps. Et je me suis vraiment régalée avec ce livre, qui est vraiment un très beau roman noir. Alors j'aimerais que vous nous présentiez cette Grande Môme justement.
Alors la Grande Môme, c'est une jeune fille de 15 ans, une adolescente de 15 ans qui s'aperçoit, qui commence à se poser des questions sur son identité. Alors jusque-là, rien de très très original, sauf que puisque c'est le propre de l'adolescence que de s'interroger sur son identité, sauf que là, elle a de très bonnes raisons de le faire, enfin des raisons objectives, j'allais dire, qui sont le fait qu'elle est la fille d'une ancienne terroriste. repentie, ou en tout cas qui était en cavale, et qu'elle vient de le découvrir au début du livre. Voilà.
Voilà, donc elle s'appelle vraiment Émilie Ambricourt, et en fait, depuis qu'elle est bébé, elle vit sous une fausse identité.
Oui, qui est celle de Dora Suarez.
Voilà, je m'appelle... Alors, le roman commence très très fort. Je lis L'Incipit, deux références fantastiques. J'ai 15 ans et je ne veux pas courir.
Oui, voilà.
Deuxième phrase, je m'appelle Dora Suarez. C'est dans la collection Rat Noir. Vous pensez que les adolescents suivent, là? Non, mais...
J'ai 15 ans et je ne veux pas courir, donc et c'est, je ne veux pas mourir,
je ne veux pas mourir,
Christine Arnotti,
oui.
est un, j'en sais quelque chose, est un best-seller encore aujourd'hui chez les élèves de 3e en ce qui concerne l'autobiographie. Donc en fait, j'ai eu des jeunes lecteurs qui m'ont, et ce qui m'a fait plaisir d'ailleurs, qui m'ont dit « Ah, il y a un clin d'œil ». Alors en revanche, effectivement, la deuxième phrase, « J'étais de race fraise », en général, est un petit peu plus... Non, il faut
c'est
falloir attendre un petit
délicat,
peu.
Un petit peu.
Mais bien sûr, enfin, j'avais déjà fait ça dans mon précédent roman jeunesse, enfin, ça fait... Puis je fais ça en général, la littérature pour moi aussi est aussi un vrai plaisir ludique, un plaisir de l'ordre de la référence, de la private joke. C'est pas du tout pour exclure le lecteur, mais au contraire pour inclure celui qui ça parle. Voilà.
Et donc il y a plusieurs sujets en fait, de multiples entrées. Donc comme vous l'avez dit, j'aimerais qu'on en parle un peu plus parce que bon, en plus vous connaissez très bien le monde de l'adolescence. C'est vraiment donc 15 ans, on cherche son identité et vous poussez jusqu'au bout, quoi. Vous poussez le bouchon jusqu'au bout. C'est-à-dire que, puisque elle en veut au monde entier parce qu'on lui a caché cette identité. Donc, c'est vraiment un roman sur la quête de l'identité et sur le mal-être de cette adolescente qui, déjà a du mal à vivre ses 15 ans, mais qui découvre que tout son monde s'écroule, en fait.
Voilà, c'est-à-dire que moi, l'intérêt était de faire une espèce de crise d'adolescence au carré, en fait.
Ah oui, c'est la plus en scène, oui.
Effectivement, de toute façon, en général, vers 14, 15, 16 ans, garçons ou filles d'ailleurs, ont un petit peu de mal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est normal. Et là, en fait, je donne des raisons en plus objectives, c'est qu'effectivement, la pauvre, elle s'aperçoit quand même que depuis sa naissance, elle vit sous une fausse identité. Elle se découvre sa mère est en prison, vient d'arriver en prison au moment où le roman commence. Elle se retrouve chez des grands-parents et dans une ville qu'elle ne connaît pas, qui a été celle de sa mère. Et voilà. Et donc en fait, c'est ce qui m'a intéressé d'abord, c'est de pouvoir évoquer ma propre ville d'enfance, qui est Rouen, et puis en même temps de donner une couleur, enfin une espèce de texture à cette crise de l'identité. Mais comme vous le disiez, c'est effectivement une des entrées possibles. L'autre entrée à laquelle je tiens aussi, c'est de pouvoir parler à des adolescents de sujets d'adultes.
Tout à fait. C'était ma question suivante.
Okay. Et ça, c'est la deuxième entrée, c'est-à-dire que déjà dans mon premier roman jeunesse qui s'appelait La princesse et le viking, bon, j'avais abordé un sujet qui était un peu limite.
Vous évoquiez déjà le terrorisme, mais de l'autre côté, en
voilà,
fait.
Qui était le terrorisme, voilà, j'évoquais sur une jeune princesse d'un royaume arabe plus ou moins imaginaire, laïque, qui était poursuivie dans un pensionnat de luxe français par des terroristes islamistes. Et donc c'est un sujet dont on peut se dire, oulalalala, pour des... Mais enfin, en même temps, moi je pars du principe que les gamins voient le JT à 20h, et voit ce que donnent enfin, voit l'Irak, voit la situation extrêmement terrifiante du monde, et qu'il n'y a pas de raison de pas leur en parler ou d'essayer de leur en parler. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que c'était quand on voit toute cette génération qui arrive à une forme de conscience politique bientôt depuis avec le CPE récemment, etc. On se dit finalement qu'il n'y a pas de raison de pas leur parler de politique, qu'il n'y a pas de raison de leur dire que dans la génération précédente des gens ont été très loin. Des gens dans la génération de leurs parents ont été très loin, à mon avis, pour de bonnes raisons, mais avec de mauvaises méthodes, dans le refus du système. Et ça, c'est des choses dont on peut parler à des gens qui ont 15-16 ans.
Oui, donc
c'est dont on peut d'ailleurs, dont il faut parler.
Dont il faut parler, et donc cette façon politique d'aller très loin. Donc c'est la lutte armée.
Oui.
Bon, était évoqué le prénom de la maman, c'est Nathalie.
Oui.
On pense à Action Directe.
Oui. Je peux être très clair dans ce qui a été. Il y a une double inspiration parce que le roman, évidemment, c'est jamais non plus un décalque pur et simple de la réalité. J'ai pensé à deux affaires qui m'ont marqué. Enfin, deux affaires. Il y en a une, c'est carrément une page d'histoire. C'est bon, donc Action Directe et en particulier la figure de Nathalie Ménigon et cette espèce de barbarie qui a poussé à l'enfermement extrême. Et puis alors une autre histoire. Je ne sais pas si vos auditeurs s'en souviendront, qui est assez récente, qui est l'histoire d'Hélène Castel. La fille du sociologue Robert Castel, qui avait fait partie d'un groupe autonome et qui avait refait sa vie au Mexique avec sa fille, justement, qui était devenue psychologue au Mexique et qui s'est fait arrêter quelques jours avant la prescription. C'est-à-dire que la police française l'a arrêté 19 ans, 11 mois et 20 jours avant la prescription, si bien qu'elle a été ramenée en France, Hélène Castel, et qu'elle a eu un procès, où d'ailleurs elle n'a eu qu'une peine de principe. Voilà, c'était les deux sources principales en fait du personnage de la mère, qu'on ne voit pas d'ailleurs, qui est omniprésent mais qu'on ne voit pas.
Et ce qui me semble très subtil dans la façon d'évoquer à la fois ce sujet sur l'adolescence et à la fois donc cette politique et la lutte armée, c'est que justement l'écrevisse à lunettes, comme vous appelez la grand-mère, enfin comme elle s'appelle elle-même, ce qui lui va très bien d'ailleurs, ce qui lui importe c'est elle, c'est sa mère. La lutte armée, elle s'en fiche un peu au départ.
Oui.
Elle s'en fiche même complètement.
Oui.
Et deuxième sujet aussi très très important, très politique et très actuel, c'est ces lois d'exception qui sont en train de nous tomber dessus et qui fait que cette pauvre gamine, non seulement lui tombe tous les malheurs du monde, sans compter les violences qu'on va découvrir petit à petit, mais aussi le fait que sa mère était mise carrément au secret, 19 ans, 11 mois et quelques après les faits. Quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, elle se retrouve en quartier de haute sécurité, enfin on appelle ça DPS maintenant, détenue particulièrement surveillée. J'ai décrit un lieu que j'ai vu pour y être passé devant, y avoir manifesté de temps en temps, qui est la prison de Bapaume dans le Pas-de-Calais. Je parle de la prison de B, mais qui était là où était enfermé Joël Aubron, notamment, pratiquement jusqu'à la fin. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que mon personnage, le personnage d'Émilie Dora, acquiert aussi une forme de conscience politique, puisqu'elle va quand même manifester. Il y a un personnage auquel je tiens, qui est un personnage secondaire, mais qui est le personnage d'un jeune, ce qu'on appelle un redskin, c'est-à-dire un jeune gauchiste engagé qui représente la génération d'après, qui veut faire un comité de soutien au sein du lycée, etc. Enfin, donc c'est cette espèce de prise de conscience à la fois qu'elle est en train de devenir une femme, qu'elle est la fille de sa mère et que vraiment de cette mère-là et pas autrement, et puis effectivement de peut-être une véritable évaluation de ce qu'elle a vécu. Parce qu'en fait, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est qu'aucun, enfin dans la mesure du possible, c'est pas parce qu'on s'adresse à des adolescents ou à un public un peu plus jeune qu'il faut être manichéen. Il n'y a en même temps pas franchement de bon et de méchant dans mon texte. C'est-à-dire que, à part peut-être
il est évacué en fait.
Oui, le flic psychopathe qui les traque un peu à la. J'ai pensé à Javert, vous savez.
Tout à fait. C'est une très belle référence.
Voilà, c'est une référence implicite, mais c'était Javert, c'est cette espèce d'obsession de la vengeance, qui devient une violence interpersonnelle, mais sinon tous les autres personnages, par exemple les grands-parents qui sont les prototypes ou l'archétype des grands bourgeois de province, ou le censeur du lycée.
Ah oui, c'est une très très belle scène.
Sont des gens qui finalement apparemment ont l'air entre guillemets de vieux cons, et puis il suffit de s'apercevoir que ce sont des gens qui ont aussi vécu ces événements-là à leur façon et qui l'ont vécu de manière beaucoup moins caricaturale qu'on ne pourrait le croire.
Oui, c'est vrai que le personnage du flic psychopathe, d'ailleurs, est traité un petit peu presque une sorte de caricature pour
oui,
justement.
Oui, il a même une excuse entre voilà. guillemets, c'est-à-dire puisqu'un de ses collègues a été abattu par un des membres du groupe.
Mais donc, tous les autres personnages qui entourent l'écrevisse voilà. ont tous de beaux morceaux, on peut dire. Et voilà, c'est une des qualités de cette littérature de genre que d'éviter tout manichéisme.
Voilà, je pense. Et puis en plus, je pense que si vraiment il y a un âge qui a besoin de mais je veux pas faire le vieux con en disant ça, moi justement, mais où on a besoin de nuancer souvent gentiment les propos, les attitudes, etc. C'est dans ce moment de ce passage, à l'écrevisse, quoi. C'est-à-dire où on est vite écorché vif, et en même temps, c'est peut-être le moment ou jamais d'apprendre le sens de la nuance. On peut être à la fois engagé de manière très forte et en même temps rester quelqu'un de nuancé.
Oui, c'est vrai que l'adolescence, c'est pas forcément.
Mais non, c'est pas l'âge de la nuance.
C'est
non.
pas l'âge.
Ça
mais
fait partie
bon.
D'ailleurs de son charme.
Mais ceci dit, on peut en parler justement. Alors justement, je voulais savoir un petit peu les réactions, parce que maintenant, ce livre a quelques mois, donc vous avez eu déjà certainement des lecteurs adolescents ou adultes qui sont venus vous en parler. Est-ce que ça les fait réagir? Est-ce que ça les rend curieux sur la lutte armée, sur ce qui s'est passé à cette époque-là?
C'est-à-dire que les lecteurs adultes, en général, sont comme vous, Corinne, des gens qui me disent bah finalement ça pourrait très bien être un roman. Enfin moi tu m'as donné ça, présenté ça comme un roman pour adolescents, mais enfin j'aurais très bien pu l'imaginer l'imaginer dans une collection pour adultes à peu de choses près. Quoi qu'il y a 2-3 scènes où j'ai pu peut-être m'auto-censurer davantage, notamment dans ce qui est de la représentation de la violence, par exemple. Mais sinon, là où j'ai eu des compliments qui m'ont fait plaisir de la part de jeunes filles, c'est le fait de me dire, mais comment ça se fait ? Parce que je suis quand même un homme de 43 ans et je suis assez content de le faire et que ça sonne juste, apparemment, d'après les échos que j'ai eus, à me mettre dans la peau, puisque c'est à la première personne, dans la peau d'une fille de 15 ans.
Oui, alors juste à ce propos, une toute petite citation.
Ce n'est pas de l'ordre du fantasme, hein, je tiens à rassurer vos...
Oui, non, ça va.
Mais... vos auditeurs, ce n'est pas de l'ordre du fantasme.
Bon, non, juste une petite citation pour montrer, pour illustrer ça. Les policiers, les psychologues, les assistantes sociales, les avocats, et Derville en particulier, tous, sans exception, n'ont qu'une seule ambition, me comprendre, moi, et me faire comprendre la situation. Mais je ne veux pas qu'on me comprenne. Et la situation, je l'ai très bien comprise toute seule. En fait, je veux qu'on me foute la paix. Et ça, je trouve que ça sonne très, très juste. Et je pense qu'il y a des tas d'adolescents,
voilà, c'est ça, c'est...
mâles ou femelles, d'ailleurs,
pour continuer,
qui peuvent complètement se reconnaître là-dedans.
Oui, non, mais c'est ça me fait très plaisir parce que c'est quand même les faire chercher, justement.
Donc, oui, voilà. Et puis c'est comme ça que les jeunes vont certainement être interpellés et s'intéresser à tous les sujets dont vous leur parlez.
Voilà, c'est ça, parce que c'était qu'effectivement, il y a une, faut pas se cacher, il y a une vertu, il s'agit pas d'être c'est pas du prosélytisme que je fais, hein, loin de là, enfin, une espèce de vertu, je préférerais le terme des formations professionnelles, le terme pédagogique, mais sans la connotation ennuyeuse.
Oui.
C'est-à-dire, au sens où le roman, il est avant tout, j'espère, une bonne histoire et un portrait de jeune fille dans la tourmente. Mais en même temps, si ça peut rendre des lycéens, en plus ça correspond au programme des lycéens de seconde et de première, un peu plus curieux sur cette période à la fois très proche et totalement occultée, puisque c'est après 68 quand même. Pourquoi pas, je serais assez content.
C'est vrai qu'histoire récente, c'est quand même la moins connue.
Il y a une espèce d'effet d'optique assez étrange, enfin pas aussi étrange que ça d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de blackout en même temps. On veut pas le savoir, en fait. On n'a pas trop envie de réveiller des vieux démons comme ça. Comment se fait-il que dans les années 70, des gens qui étaient en général en plus plutôt des gens apparemment bien insérés dans la société ont décidé d'aller jusqu'au bout de leurs convictions, y compris dans la lutte armée.
Alors, tout à l'heure, il y a quelques minutes, Vous aviez dit que vous étiez un tout petit peu auto-censuré. Ça va m'amener la dernière question, parce que malheureusement, le temps passe très vite. Quand vous écrivez aussi beaucoup de romans dans des collections adultes, puisque bon, j'aime pas faire, mais pour Souris Noire, le premier, La Princesse et le Viking, et celui-là, qu'est-ce que vous interdisez ?
Alors, pour alors, encore plus de choses pour le Souris Noire, par exemple, je m'interdis toute la violence est hors champ, si je puis employer un terme de cinéma. Mmh. C'est-à-dire que il n'y aura jamais une scène de violence peinte directement. C'est-à-dire que on entendra les coups de feu, on arrivera après, on arrivera avant, mais pas pendant. Voilà, en quelque sorte. Et puis après, il y a aussi, et c'est sans puritanisme aucun, mais j'estime que c'est pas le rôle d'une collection de ce genre. Je reste très très fleur bleue dans la représentation de la sexualité.
De la sexualité.
Ou du désir, en tout cas.
Ben, Jérôme Leroy, on va vous remercier et pour d'avoir été présent avec nous et surtout pour ce très beau roman.
Merci beaucoup.
Donc la suite en série noire, mais je l'ai été entendre dire.
Normalement, oui.
Non,
normalement oui.
Voilà. Début, bientôt.
Bientôt, enfin le manuscrit est en cours de en tout cas, oui, c'était au programme. Voilà.
Merci beaucoup, Jérôme Leroy.
On en reparlera sûrement.
On en reparlera, ben, c'est gentil.
Au revoir.
Merci
au revoir.
À tous les deux, au revoir.
18h30 sur Agora FM, excellent début de soirée, tout de suite l'information régionale.